Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. Les informations étaient signées Anne-Laure Chouin et nous la retrouverons à 9h.
Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à toutes et à tous dans les coulisses de l'information. Il y a 80 ans, le 6 février 34, les ligues défiaient la démocratie dans les rues de Paris. Et 80 ans plus tard, les mobilisations extrémistes semblent de retour. Jour de colère dimanche dernier, journée de retrait de l'école en début de semaine. Et ces militants extrémistes seront aussi l'une des composantes demain de la manif pour tous, même si la base de cette dernière dépasse de beaucoup les minorités groupusculaires. Autant de mobilisations qui se font en tout cas en dehors des médias, voire contre les médias, et elles posent un sérieux défi aux journalistes. Avec nous ce matin, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint et chef du service politique au Parisien, Marine Turki, journaliste à Mediapart, spécialiste de l'extrême droite, et Frédéric Aziza, journaliste à LCP et Radio J, et vous venez de publier « Vol au-dessus d'un nid de facho » chez Fayard. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Comme toujours, nous sommes également en compagnie de l'une des membres de notre cercle d'observateurs des médias. Ce matin, la sémiologue Mariette Darigrand. Bonjour.
Bonjour.
Et de l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
Avec ce matin aux manettes, Vincent Abouchard, Clément Daté et Mathias Mégy. C'est Le Secret des Sources sur France Culture. À télécharger, à écouter, à commenter aussi sur franceculture.fr.
Dans le cortège, ça donnait un florilège de slogans, tous plus séduisants les uns que les autres. Le premier, je vous le sous-titre parce qu'il est un peu difficile à entendre, « État juif en faillite ». C'est le dernier, le classique journaliste collabo, les voitures techniques, les caméramans, les preneurs de son, tout le monde a été pris à partie, plus ou moins violemment, parfois par des mots, parfois par des coups de pied sur des caméramans.
Reportage de Sébastien Paour sur France Info lundi matin, au lendemain de cette manifestation de dimanche dernier à Paris, qui a réuni 17 000 personnes selon la police, sous le mot d'ordre « Jour de colère ». Dans la foulée, on a donc eu droit en début de semaine à ce boycott de l'école, qui a touché une centaine d'établissements sur la base d'une rumeur fantasmatique au sujet d'un prétendu enseignement de la théorie du genre à l'école maternelle. Théorie du genre dont on rappellera ici qu'elle n'existe pas en tant que telle, sauf dans l'esprit de ceux qui disent la combattre. Dans les deux cas, des mobilisations opérées par des réseaux d'extrême droite et que les médias classiques n'ont pas vraiment vu venir. Et c'est la première caractéristique de ces mobilisations extrémistes, Frédéric Aziza, Marine Turki, Henri Vernet. C'est le premier défi aussi qu'elles posent aux médias, c'est qu'elles s'opèrent en dehors des médias et du bruit médiatique dominant. On peut résumer ça comme ça, Frédéric Aziza ?
Oui, je crois que ça commence par Internet, par les réseaux sociaux. C'est ce que je vis, c'est ce sur quoi j'enquête depuis plus d'un an. Parce que ce sont des gens qui sont des habitués du complotisme, du conspirationnisme. À travers les réseaux sociaux et Internet, ils diffusent des informations, un discours justement complotiste et conspirationniste. C'est ce qu'on a vu avec la diffusion de ces messages sur la théorie du genre, qui provenait d'une personne, Farida Belghoul, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'enquête sur ce livre, « Vol au-dessus d'un nid de facho », qui est une proche d'Alain Soral, qui diffuse des informations, des rumeurs, et de fausses rumeurs qui fait peur. C'est la stratégie de la peur, de la menace et de l'intimidation.
Et ce n'est pas au coup par coup sur Internet. Ce sont des stratégies de longue haleine qui sont menées progressivement sur des mois et des mois. Ça ne sort pas comme ça tout d'un coup de la cuisse de Jupiter, Marine Turki.
L'extrême droite est quand même très présente sur Internet. Elle a toujours su maîtriser très tôt l'outil. Donc ce n'est pas étonnant depuis un an et demi de voir qu'ils ont beaucoup investi la toile et notamment les réseaux sociaux. On a vu depuis six mois une manifestation qui se présentait comme le jour de colère. une grande manifestation citoyenne, mais qui n'avait une existence que virtuelle. C'était des petits collectifs dont on attendait de voir ce que ça allait donner dans la réalité de la rue. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que ça se fait en dehors des partis traditionnels, même s'il y a des connexions avec certains partis, ça s'est fait en dehors des structures partisanes.
Mais donc ça échappe aussi un peu au radar, ça échappe au radar des partis politiques, mais ça échappe aussi un peu au radar des médias classiques quand même.
Des médias classiques, mais de tout le monde, c'est comme ça, parce que il faut être honnête, hein, cette manifestation, on l'avait pas vraiment vu venir, en tout cas pas de cette ampleur, pas avec ce nombre-là. D'ailleurs, le nombre, arrêtons-nous-y un instant quand même, parce que, ok, 17 000 ou 160 000 selon les autres, peut-être que la vérité est entre les deux comme d'habitude, enfin beaucoup plus proche de 17 000, peut-être autour de 20 000, mais même 20 000, c'est énorme, 20 000 personnes, surtout quand on pense au caractère, mais complètement démentiel des slogans qui ont été créés, juif, casse-toi, c'est pas ton pays, ce sont quand même des choses qu'on n'a pas entendues depuis des décennies, Dieu merci en France. Donc qu'il y ait des gens, qu'il y ait plus de 20 000 personnes rassemblées dans les rues de Paris derrière un tel slogan, c'est presque inimaginable. Alors est-ce que ces 20 000 étaient vraiment venus avec l'idée que ça allait se passer comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, ceux qui agitent ces mots d'ordre et que finalement elle est extrêmement fluide, la toile, les réseaux sociaux comme ça, est-ce que ces groupuscules dont vous avez raison de signaler l'existence, mais il y a également les fans de Dieudonné, il y a du monde là-dedans, c'est totalement disparate, est-ce que ces groupuscules finalement n'arrivent pas à prendre dans leur filet d'autres, enfin des gens qui ne sont pas forcément adhérents à ces idées-là, et c'est d'autant plus dangereux.
Juste un mot quand même, vous prononcez le mot disparate. On va revenir à leur stratégie de mobilisation juste après, mais est-ce que c'était si disparate que ça? Est-ce que c'était si hétéroclite comme ça? On a entendu cet adjectif lundi et mardi dans les médias. C'était quand même assez clairement factieux d'extrême droite.
C'était factieux d'extrême droite, mais tout à l'heure, ce que vous disiez au début de l'émission, on n'avait pas eu ça depuis les ligues, hein, depuis 80 ans, depuis 34. Eh bien, c'est ça. On a vu à Paris 17 000 personnes, peut-être plus, qui ont manifesté dans le cadre d'une manifestation. On a entendu des slogans, comme vous disiez, « Juif, casse-toi, la France, t'es pas à toi »,« Juif, licra, on n'en veut pas »,« Forisson a raison, la France, t'es pas là », et puis des slogans homophobes, parce que ces gens-là, ils ont trois cibles. Ils ont le juif, l'homo, la femme. Et c'est ce qu'on voit sur le site d'Alain Soral, et les féministes, sur le site d'Alain Soral, sur le site de Dieudonné, sur les sites des islamo-salafistes depuis des mois et des années. Jusqu'à présent, on ne disait rien et il faut maintenant dire ça suffit.
Marine Turki, Henri Vernet. Et
juste
après, on va écouter deux documents
sonores. On ne l'a pas vu venir en tant que journaliste. On enquête, nous, depuis des mois sur ces mouvements, sur ces manifestations. Le 26 janvier, on ne peut pas dire totalement qu'on ne l'avait pas vu venir et que c'était un chaudron hétéroclite. Parce qu'en réalité, il fallait enquêter déjà sur les organisateurs de Jours de Colère. Sur le site, ils ont donné le nom de 9 organisateurs. Il y avait des prénoms, il y avait des professions. On pouvait très vite voir que ça découlait du Printemps français, de la branche radicale de la Manif pour tous, où on trouvait des anciens du GUD, des catholiques traditionnels, qui sont proches de cette nébuleuse du GUD, dans laquelle on retrouve notamment Axel Lousteau, qui est le trésorier du micro-parti de Marine Le Pen. On retrouve Frédéric Pichon, qui est un ancien leader du GUD, qui est l'avocat de plusieurs militants de la Manif pour tous et du Printemps français l'année dernière, qui prônait la radicalisation.
Donc c'est pas hétéroclite.
Voilà, donc on savait. Alors la différence, c'est que la nouveauté, c'est que les dieudonistes sont venus.
Et voilà, c'est en ça que c'est disparate.
À ce rassemblement. Après, mais dire qu'il y avait beaucoup de mouvements de droite, anti-fiscalité, etc., c'était des mouvements bien précis qui étaient présents le 26 janvier. Moi, j'ai fait toutes les manifs depuis un an et demi, je vois bien la différence. Alors, là, c'était clairement un rassemblement d'extrême droite et ça n'a pas été présenté comme ça dans les médias, d'ailleurs.
Je voudrais qu'on revienne à leur stratégie de mobilisation. Et l'une des stratégies, c'est la diffusion de vidéos virales qui sont transmises de site en site, de boîte mail en boîte mail, de téléphone en téléphone, etc. Alors, on va prendre deux exemples sur le thème du genre. La première, c'est lors d'une réunion il y a quelques mois de la Manif pour tous, une intervention d'un juriste de formation qui a pris un prête-nom pour l'occasion, Patrice André, et la seconde, vous la citiez, Farida Belghoul, donc cette femme très en pointe sur la mobilisation retrait de l'école cette semaine. On écoute successivement Patrice André puis Farida Belghoul.
C'est qu'en réalité, derrière le mariage des personnes de même sexe, il y a la volonté d'abolir toute différence entre les sexes. Ce mariage n'est qu'une première étape. C'est la première pierre la plus importante de ces derniers mois, de ces dernières années, mais c'est la première pierre de quelque chose qui va aller bien au-delà. Il est question tout simplement d'imposer à la France, d'imposer à l'Europe, d'imposer sur le plan international une théorie qui s'appelle le gender et qui est vraiment une théorie dont le but est de subvertir totalement la société dans laquelle nous vivons. Et j'attire votre attention.
À l'éducation nationale, en ce moment, il est en train de se passer quelque chose, une fois de plus, de tout à fait extraordinaire et de tout à fait catastrophique. Il s'agit de l'introduction, par autorisation du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, de l'introduction de la théorie du genre dans les classes de primaire notamment, Et l'objectif, c'est de faire entrer cette théorie du genre à tous les niveaux de l'école.
Alors, ces vidéos, on ne va pas les trouver sur les médias classiques, mais elles sont abondamment relayées sur le net, elles sont abondamment visionnées, mais on va les trouver sur des web TV, on va les trouver sur des sites internet alternatifs ou alter-info, etc. C'est là qu'on les trouve, mais alors, là, elles diffusent.
Elles diffusent. Alors, justement, moi, j'ai fait une enquête depuis un an sur cette mouvance, sur cette nébuleuse, parce que depuis le mois de novembre 2012, je suis attaqué par cette fachosphère, par Alain Soral, par les gens proches de lui, comme Farida Belghoul, Dieudonné, des proches de Marine Le Pen. Parce qu'il faut voir qu'on dit c'est rien, mais c'est pas vrai. Il y a aussi des partis politiques derrière. Il y a des gens qui sont proches de Marine Le Pen, comme Frédéric Chatillon, comme Axel Lousteau, comme Philippe Hénin, qui sont liés à ces gens-là. Donc ils font le lien entre Marine Le Pen et l'ultra-droite. Ils diffusent via Internet, via des réseaux sociaux. Et quand on dit Dieudonné, c'est 5000 personnes qui vont le voir, 10 000 personnes. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des millions de personnes qui suivent ces vidéos. D'où cette mobilisation. Et dans le livre que j'ai écrit, Vol au-dessus d'un lit de facho, je dis que tout commence avec la manif pour tous. Au départ, la manif pour tous, c'est un mouvement populaire. Les gens ont le droit de manifester contre un projet de loi, une proposition de loi qu'ils refusent, des idées qu'ils refusent. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la manif pour tous ? Au départ, c'est une mobilisation de la droite, et ensuite la droite a été supplantée par l'ultra-droite. Qu'est-ce qu'on a vu dans à la fin de certaines manifestations ? Je crois que c'était le 26 mai, par exemple. On voit sur les chaînes d'infos en continu des gens, je crois même qu'il y avait Axel Lousteau, il y avait des gens de l'ultra-droite qui font des saluts nazis devant l'Assemblée nationale, devant les forces de police qui protègent l'Assemblée nationale. Et je me souviens qu'à l'époque, parce qu'il y a aussi le rôle des chaînes d'information.
Qui a dit qu'on en reste qu'à quelques saluts nazis.
Il n'y a
pour l'instant
que quelques saluts nazis. Eh bien, que quelques
saluts nazis. C'est un trop.
C'est un trop. Et on est en 1934. Ce sont les 17 000 personnes ou les 20 000 personnes qui ont manifesté. Moi, je vous dis, ce sont 17 000 salauds. Pourquoi ? Parce que soit ils se sont fermés les yeux, ils ont bouché les oreilles, ils ont fait comme s'il ne se passait rien, soit ils ont tout entendu et ils assument tous. Donc, ce sont des salauds.
Alors, restons sur la responsabilité des médias, parce qu'on dit en dehors des médias. C'est vrai, on les voit, ces sites alternatifs, etc. En même temps, Éric Chavoux, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements extrémistes, ils arrivent à se glisser aussi dans les interstices des médias classiques. Ils noyautent d'une certaine façon.
Avec plusieurs portes d'entrée, la première, maintenant, elle est classique, hein, elle est toujours aussi utilisée. Ce sont les commentaires, ou comment en fait troller, on dit, en fait s'emparer des sites et puis des forums des grands médias, souvent par des vagues concertées, d'autant que ces médias n'ont pas toujours les moyens de réellement modérer comme ils le souhaiteraient leur page. Et conséquence aussi des médias participatifs comme Rue 89, plus il y a de commentaires et plus ça attire les internautes, et les personnes qui noyautent ces espaces le savent pertinemment. Le Midi Libre a publié le témoignage édifiant d'un repenti d'extrême droite à ce sujet. Vous le trouverez sur notre page. Il y a une autre méthode qui, elle, on pourrait l'appeler un peu le copier-coller. Et puis, plus c'est gros et plus ça pourrait passer. On dirait que c'était en mai dernier, en l'occurrence, des opposants au mariage pour tous qui, eux, ont carrément copié-collé la charte du Monde, du Nouvel Observateur, de TF1 pour publier de faux articles au sujet de la mort d'un des leurs, ainsi qu'un faux tweet d'ITélé. Et puis, il y a une attitude un peu beaucoup plus fine, qui est d'infiltrer des espaces d'opinion, d'expression de certains grands médias, rattachés à certains grands médias. Et en octobre, le journal du Net a révélé dans une enquête minutieuse qu'il y avait des médias comme L'Express, Capital, Les Échos et Mediapart qui s'étaient fait comme ça piéger.
Qui abritait des blogs, en fait,
voilà, de faux experts. Alors, c'était essentiellement lié à des lobbies ou à des marques, mais c'était aussi lié à des idées. Mediapart, tous ces médias ont corrigé ou alors ont mis des alertes par rapport à leurs internautes. Et Mediapart, lui, a dit non, nous, on laisse s'exprimer tout le monde. Vous en êtes rendu compte vous-même cette semaine, Jean-Marc, puisque sur leur plateforme de blog, on trouve le blog de FAC, on ne sait absolument pas qui c'est, anonyme complet, qui publie un post dans lequel il demande la démission de Vincent Peillon et de Najat Vallaud-Belkacem. Il les traite, entre autres, d'ennemis de l'intérieur, d'ordures qui pourrissent nos enfants, et il appelle à la révolution.
Alors, il y a un autre fait marquant, c'est que ces groupuscules utilisent la technologie. C'est-à-dire là, on parlait du fond, mais ils utilisent la forme, évidemment. C'est-à-dire le référencement Internet, c'est des pros de ça.
Oui, parce qu'ils savent pertinemment que la clé sur le web, c'est pas d'être publié, c'est d'être référencé, et en particulier sur Google. Et alors, ils sont très actifs, ils sont souvent bénévoles, nombreux, ils sont aguerris, très bien formés. Ils savent comment faire, comment utiliser les adresses, l'URL, les mots-clés, comment faire remonter, par exemple, dans les résultats sur le moteur de recherche, comment faire remonter un article. Avec l'aide des réseaux sociaux, ils arrivent à doper la notoriété d'un article pour que là aussi, ils puissent monter dans les résultats. Et déjà en 2010, il y avait le président du groupe identitaire, Fabrice Robert, qui confiait au Monde l'importance de ce référencement. Alors, il faut dire que lui, il est expert parce qu'il est de formation consultant en multimédia. Et il expliquait, entre autres, il se vantait, au moment du campement des enfants de Don Quichotte, d'avoir pu placer en résultat numéro un sur Google un de ses sites lié au mot-clé SDF.
Par exemple, si on cherchait en début de semaine, si on faisait une recherche sur un moteur de recherche théorie du genre, on tombait exclusivement sur des sites opposés à la dite théorie du genre. Ce n'est que dans un deuxième temps, deuxième partie de la semaine, parce que les médias classiques se sont emparés du sujet, qu'on s'est mis à tomber sur des articles des grands médias classiques. Mais tout était squatté, si j'ose dire, Marine Turquie.
Leurs biais sont parfois subtils. Jour de colère a abrité très tôt, a mis très tôt son blog sur Mediapart, sur la plateforme de blog de Mediapart. Mais ce qu'ils ont publié n'était pas du tout contraire à la charte. C'était un appel à manifester pour le 26 janvier, mouvement apolitique et citoyen. Donc là, il y a effectivement le souci de la modération. Ils ne contreviennent pas à la charte. Donc comment vous les censurez ?
Et c'est bien pour ça que je dis que dans ces mouvements-là, eux, enfin les instigateurs, nous on a fait une enquête là-dessus, on a distingué les instigateurs, les idéologues et puis les soldats, et ceux qui sont parfois soldats malgré eux. C'est bien pour ça, grâce à ça. Ils ont cette compétence, cette technicité incroyable, cette habileté, ce machiavélisme on peut dire, étant donné leurs objectifs, leurs mobiles. Mais il apparaît quand même que dans leur filet, ils prennent plus large. Encore une fois, vous dites 17 000 salauds, je suis d'accord avec vous, je veux dire que c'est intolérable d'entendre encore une fois crier « Juif, casse-toi », c'est tout simplement intolérable. Pour autant, est-ce que dans ces 17 000 salauds, il n'y avait pas surtout quelques quand même Anne Batté qui se sont laissés avoir, qui se sont laissés entraîner là-dedans? Parce que malgré tout, disparaître peut-être, c'est pas exactement le mot, mais enfin, il y avait quand même également des bonnets rouges dévoyés, etc. etc.
Le mouvement n'a pas appelé à manifester.
Vous le dites vous-même, mais attendez. Non, mais bien sûr que non.
C'était
mais il y avait dedans quand même quelques-uns dévoyés.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous le soulignez vous-même, le côté subtil de certains billets, le côté attrape-tout, qui permet derrière un slogan qui s'appelle Hollande dégage, d'avoir quelques électrons un petit peu perdus. Et combattre ça, c'est extrêmement difficile. C'est ça qui va requérir beaucoup de vigilance et de technicité, j'imagine.
Frédéric,
oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi ce que j'appelle les complaisants. Hein, on parlait de Farida Belgour, pardon. Elle diffuse ses idées, elle prononce ses discours avec une personne qui s'appelle Marion Sigaud. Alors vous allez me dire c'est anecdotique, qui est cette Marion Sigaud? C'est une personne qui a dirigé avec Nicolas Dupont-Aignan Debout la République. Elle était secrétaire nationale de Debout la République, je crois, à la francophonie jusqu'à il y a quelques semaines. Hein. Et en même temps, concomitamment, elle était l'une des dirigeantes de Égalité et Réconciliation de Alain Soral. Donc, Nicolas Dupont-Aignan ne lui a pas dit à un moment donné il faut partir. Elle est restée auprès de lui. Il y a aussi des gens comme Éric Nolot qui passe pour un grand démocrate, qui dit j'ai fait un livre contre Alain Soral. C'est pas vrai. Il a fait un livre de complaisance, de compromission avec Alain Soral. Il partage ses droits d'auteur avec Alain Soral dans un livre qui est violemment antisémite, homophobe, anti-femme. Il partage ses droits d'auteur avec lui. Il diffuse les mêmes idées. Il est présent sur tous les plateaux télé en diffusant l'idéologie d'Alain Soral. Et alors qu'Alain Soral se déclare national-socialiste, donc nazi. Donc ça veut dire qu'Éric Nolot, qu'est-ce qu'il fait? Il est complaisant et il diffuse, il finance un mouvement nazi.
Alors, je voudrais qu'on revienne au cœur de notre sujet, c'est-à-dire la relation entre ces mobilisations extrémistes et les médias. Il y a une autre facette sur laquelle il faut s'arrêter quand même un petit moment, c'est qu'une autre caractéristique de ces mobilisations extrémistes, c'est qu'elles sont non seulement dehors des médias, mais contre les médias et contre les journalistes. Fétiche de ces manifestations, journalistes collabos. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est un document sonore que vous avez recueilli et mis en ligne sur le site de Mediapart, Marine Turquie. Pour ces militants, les journalistes et les médias sont perçus comme, on va dire, aux ordres. Ce sont des ennemis, donc on les ignore ou on les agresse.
Oui, il y a un vrai rejet des médias, mais ce qui était le fait avant de quelques de quelques militants, là, ça devient massif. Dimanche, par exemple, c'était toute la foule qui scandait dans tous les cortèges, journalistes collabos, et j'en passe. Les confrères de Canal+ se sont fait agresser à de nombreuses reprises.
On va y revenir.
Et c'est déjà arrivé l'année dernière. L'année dernière, on a quand même vu, il faut le rappeler pour les auditeurs, des journalistes se faire charger sur 200 mètres par toute une foule. Donc il y a un vrai rejet des élites et aussi des journalistes. À tel point que ça devient impossible de faire son travail dans ces manifestations, dans le sens où là où en temps normal on irait voir les gens et puis leur demander pourquoi vous êtes là, etc. Ça n'était pas possible dimanche et c'était difficilement possible l'année dernière vu l'agressivité dont on a été victime.
Mais est-ce que ce phénomène de rejet n'est pas ni plus ni moins que la partie émergée de l'iceberg de la défiance vis-à-vis des journalistes? Parce qu'en gros, il y a quand même les deux tiers, voire les trois quarts des Français qui n'ont pas confiance dans les journalistes. Alors, est-ce que ça n'est pas le reflet de ça?
Je ne crois pas. Il est normal de pouvoir critiquer les journalistes. Hein. On a le droit de dire que les journalistes ne font pas bien leur travail. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que, comme vous le disiez, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai découvert un certain nombre de procès de Dieudonné, par exemple, dans le cadre de l'enquête sur ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on m'a vu, dès que les gens, les fans de Dieudonné m'ont vu, ils ont commencé à me poursuivre dans le cadre, sur le lieu du palais de justice de Paris. Donc, on ne peut plus faire notre travail. C'est ce qui s'est passé le 26 janvier, lors de cette manif, la manif du jour de colère. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre des manifs pour tous. Ce sont des gens qui sont violents, qui menacent et qui intimident. Alors, le travail qu'il faut faire aussi derrière, il y a le problème des chaînes d'infos. Souvent, sur les chaînes d'infos, il y a une minute pour les racistes, une minute pour les antiracistes. Ici, à France Culture, à Radio France, France Info, sur un certain nombre de médias aux Parisiens, on contextualise l'information, ce qui n'est pas le cas sur les chaînes d'infos. Et ça, c'est ça aussi le problème. Il ne faut pas donner la parole comme ça.
Même sur les chaînes d'infos, maintenant, il y a des émissions avec un peu de recul.
C'est-à-dire mais pas quand c'est du direct.
Mais bien sûr, d'accord, mais je ne pense pas que les chaînes d'infos.
Et sur ma question, sur la partie émergée de l'iceberg.
Vous avez raison.
Il faut la poser, cette question-là.
Mais totalement, vous avez raison. Alors que les gens, et c'est vrai, à longueur de temps, je crois que c'est notamment un sondage annuel de la Croix qui le montre, à chaque fois c'est saisissant à quel point en effet la perte de crédibilité de la parole journalistique, de la confiance que les gens nous accordent. Mais ça, je veux dire que c'est normal d'abord, c'est assez comparable au peu de confiance que recueillent les hommes politiques, mais tout simplement c'est exercer son droit critique, son devoir de critique même, que l'opinion ne se laisse pas comme ça, guide, ne prenne pas tout au pied de la lettre, c'est très très bien. Mais en revanche, qu'elle s'en prenne physiquement, mais une part infime, parce que moi je reviens quand même, par rapport à mes deux confrères, je reviens quand même au caractère extrêmement marginal de cette manifestation et de cette expression de colère. Dangereuse, certes, mais marginale. Eh bien, il y a une différence entre exercer un droit de critique et empêcher les gens de faire leur métier, exercer des violences. Qu'est-ce qu'ils font en faisant ça? Ils signent leur refus de la démocratie. Ils sont tout simplement totalement antidémocratiques. Et juste une dernière chose, c'est l'héritage de quoi, ça? Mais c'est l'héritage d'années de lepénisme. Enfin, Jean-Marie Le Pen, sa fille un peu moins, mais quand même, ça a été l'éternel procès de ce qu'il appelait l'establishment, dans lequel il y avait les grands partie, mais il y avait également les médias. Donc on est malheureusement dans une figure très classique pour le coup de l'extrême droite. Je jette l'anathème sur les journalistes qui sont des collabos, ce qui est un peu un comble venant de l'extrême droite, mais pour les décrédibiliser tout simplement.
Alors, on vient de voir là comment ces mouvements extrémistes se comportent vis-à-vis des médias. Je voudrais qu'on inverse la perspective pour aborder l'attitude cette fois des médias et des journalistes face à ces mouvements. Un exemple, l'extrait en l'occurrence du JT de France 2 dimanche soir.
On revient en France avec ces incidents à Paris en marge d'une manifestation organisée par plusieurs associations clamant leur colère contre François Hollande et appelant à sa démission. 12 policiers ont été blessés et une dizaine de personnes interpellées. Ce soir, Manuel Valls condamne fermement les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre par des individus, je cite, issus de l'extrême et de l'ultra-droite dont le seul but est de créer le désordre.
Une brève de 25 secondes au milieu du journal, ça c'est la manifestation jour de colère traitée dans le JT de France 2 dimanche soir. Alors c'est la première option hein, dans le traitement médiatique de ces sujets, c'est de dire c'est marginal, c'est la tentation de la brève. Est-ce qu'on peut traiter en bref pour vous?
Mais peut-être parce qu'au départ, les journalistes qui étaient un peu loin de cette manifestation n'ont pas compris ce qui se passait. On a commencé à le comprendre quand on a entendu les slogans qui ont été prononcés. C'est pour ça qu'il faut couvrir ce genre de manifestation. Certains se demandent est-ce qu'il faut couvrir ou pas. Bien sûr qu'il faut couvrir. Ce qui a été fait par notamment le Petit Journal, avec une caméra fixe et puis des caméras tout au long de la manifestation, on a vu, on a entendu ce qu'ils disaient. C'est pour ça que je disais c'est une manifestation de salauds, parce que quand on entend ces slogans, c'est pas normal.
Mais je vais prolonger ma question. Est-ce que traiter en bref, c'est pas justement adopter cette position du journaliste condescendant, coupé du monde, du bon côté du manche, enfin précisément ce que les manifestants reprochent aux journalistes?
Oui, sans doute. Non, mais vous avez raison. Il y a peut-être ça. C'est vrai que... Alors... Moi, j'assume le fait de dire que c'est marginal et je le souhaite. Mais peut-être que demain, je serai démenti. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un péril fasciste en France. Il y a une société au bord de la crise de nerfs. Ça, oui. Il y a des extrêmes. Il y a une violence qui se libère. Il y a un regain de couleur de l'extrême droite. D'accord. Mais ça reste marginal. Et peut-être que, en effet, à force, ça rend un peu condescendant. Nous-mêmes, aux Parisiens, vous dites la brève. Nous, aux Parisiens, le lendemain, le jour même, on a fait une demi-page. Pas plus. Parce qu'on
est fait. Mais après, dans la semaine, vous avez fait davantage.
Oui, on a fait un dossier de 3 pages. En effet, trois pages en une, parce que en effet, ça nous a paru important, parce que ça interpelle. Qu'est-ce qui arrive dans ce pays? Comment se fait-il que, comme à Carpentras, il y a 30 ans, il n'y ait pas eu une levée en masse des politiques?
Je vais aller plus loin encore dans ma question. Est-ce que ça ne participe d'ailleurs pas de ce phénomène dans lequel les médias ont largement sous-estimé l'évolution néo-conservatrice de tout un pan de la société française? Marine Turki.
Moi, je reviens juste à la question d'avant, 2 secondes.
Mais la réponse à la question suivante m'intéresse aussi.
Également. Mais nous, on a couvert toutes ces manifestations et il me semblait important de le faire et de le faire de la manière la plus factuelle possible parce que, par exemple, le 26 janvier, il fallait être là pour rendre compte des slogans avec des images qui parlaient d'elles-mêmes et une mise en contexte plus enquêtée sur qui y a derrière tout ça. Après, condescendance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une banalisation aussi énorme de certains faits, de certains slogans. Moi, je ne comprends pas quand on entend une chaîne d'infos en continu dire « Pour l'instant, tout va bien, on en reste à quelques saluts nazis ». Ça, on l'a beaucoup entendu. Donc, je m'interroge un petit peu là-dessus. On a vu beaucoup de confrères repartir au bout de 5 minutes en découvrant ce qu'il y avait dimanche. Moi, je pense qu'il fallait, le couvrir. Il fallait donner à voir qui était là, pourquoi. Et il manque une dimension aussi de qualité et d'enquête dans certains reportages. Pourquoi on n'explique pas précisément qui est derrière ce mouvement?
La tentation d'une sous-estimation de ces mouvements-là et de l'évolution néoconservatrice de la société française parce que le journaliste serait dans un microcosme qui est, encore une fois, du bon côté du manche. Question, Frédéric Lazija.
Je ne sais pas si c'est l'évolution néoconservatrice de la société française.
D'un pan de la société française.
Oui, mais c'est même pas un problème. Néoconservatrice, les gens ont le droit d'être néoconservateurs. Là, c'est l'ultra-droite la plus radicale. Et moi, c'est ce que je vois depuis un an. Quand vous êtes insulté, quand vous êtes attaqué, quand vous êtes victime d'une campagne violemment antisémite depuis un an sur les réseaux sociaux, ça vous fait quand même, ça vous conduit à vous poser des questions sur ce qui se passe en France, sur ce qui vous arrive, pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas l'évolution néoconservatrice de la société française. C'est l'ultra-droite qui veut prendre le pouvoir. C'est l'ultra-droite qui a le fantasme du coup d'État. En juin dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Un certain Rodolphe Crevel a appelé des soldats à essayer d'embrigader des généraux pour qu'ils fomentent un coup d'État contre l'État. Et ça, c'est quand même grave.
Henri Vernet.
Oui, sur cette question très précise que vous posez, l'évolution des conservatrices, là, je partage un petit peu. On a plutôt l'impression, donc, par les enquêtes qu'on fait, puisque donc, quand vous parliez du 3 pages qu'on a fait dans le Parisien, on est allé justement voir qui sont ces gens-là, enquêter, etc., et donc les distinguer. On a plutôt l'impression, quand même, que depuis un an, il y a une résurgence, une espèce de réaction d'une France qui se sent un petit peu assaillie, braquée, etc., qui existe, mais qui n'est pas forcément plus nombreuse, simplement qui se montre davantage, qui réagit davantage parce qu'elle sent que ses valeurs sont un petit peu agressé.
Alors, dans le traitement médiatique, il y a le risque de la condescendance, on vient d'en parler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque inverse, c'est-à-dire celle de la survalorisation par le spectaculaire? Je voudrais qu'on s'arrête sur ce recensement par la télévision des images où les journalistes se font agresser. On en parlait tout à l'heure. Extrait ici du petit journal de Canal+, lundi dernier, toujours au sujet de cette manifestation dite « jour de colère ».
Toutes ces images ont été filmées par nos équipes du petit journal qui ont bossé comme les autres médias, c'est-à-dire dangereusement.
Il y a des journalistes qui ont été pris à partie, agressés.
On vous empêche même de mettre plus de lumière pour ne pas trop vous faire remarquer par les manifestants qui sont donc très tendus ce soir.
L'enfer, sale pute ! Pourquoi tu me files ? Tu m'as brûlé !
C'est vrai. On y a eu droit aussi, on a décidé de vous diffuser les images. Nos équipes se sont pris des coups de pied.
Éric Chavroux, vous qui analysez les images aussi chaque semaine dans Le Secret des Sources, on est en présence d'une scène qui est devenue un peu un cliché à la télévision, où la position du journaliste est malgré tout un peu ambiguë, parce que bien sûr qu'il doit montrer le dérapage, évidemment qu'il est là pour ça. En même temps, on en est arrivé à un point où d'une certaine manière, on a la sensation qu'il recherche ce dérapage, parce que ça fait de la belle image en télévision, pour être un petit peu trivial.
Oui, c'est l'image de la manifestation qui tourne mal. Ça fait des années qu'on les a baptisés les casseurs, donc ils sont d'un côté, qu'ils soient extrémistes de gauche, de droite, anarchistes... rebelles d'un jour ou tout simplement délinquants, avec souvent des professionnels d'ailleurs, comme les Black Blocs. Et puis en face, le journaliste, qui de plus en plus peut, mais doit transmettre des images. Alors ça passe par la caméra, mais aussi l'appareil photo ou le smartphone. Et des images de ces mobilisations qui sont saisissantes, voire impressionnantes, au point qu'on les a même qualifiées d'images de guérilla ou même de guerre. Et finalement, on se demande un peu ce qu'il y a de neuf là-dedans. Je ne parle même pas de mai 68, mais déjà, fin 90, on est à Montparnasse pendant des manifestations lycéennes. Et puis... il y a un centre commercial, les vitrines d'un centre commercial qui sont explosées, tout ça est pillé. Et là, déjà, on a des scènes de batailles rangées du côté des Invalides. Depuis, on se demande finalement ce qui a changé dans ces images.
La présence de la caméra va susciter l'agression vis-à-vis de la caméra aussi. Enfin voilà, il y a une espèce de cercle un peu bizarre.
Oui, c'est ça. On se demande ce qui entraîne quoi. Et on peut se demander s'il y a nécessité de continuer à filmer ça quand on a vu et revu toujours les mêmes séquences et que ça se limite très souvent à, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine de fous furieux.
Henri Vernet ?
Oui, mais enfin là, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Quoi. Qu'est-ce qui provoque l'autre ? Pour moi, l'important, c'est que ça existe. Et à partir du moment où ça existe, bah oui, on doit le montrer. Alors, est-ce que la caméra va déclencher des violences ? Est-ce que ça va déclencher des saluts nazis ? De toute façon, ce qui est terrible... En plus, vous-même, vous avez commencé l'émission en montrant un petit peu l'importance de ces nouveaux médias, des tweets, de Facebook, etc. Et c'est quand même d'abord là-dessus que les images existent, qu'elles apparaissent et qu'elles sont extrêmement largement diffusées. Ce qui est terrible, ce qui est impressionnant, ce qui est totalement nouveau, c'est ça, c'est la vitesse et la massification de la diffusion de l'horreur, de la bêtise, de l'extrême droite, enfin des idées les plus, mais peut-être aussi un jour de l'extrême gauche, mais des idées, disons, les plus pernicieuses, les plus dangereuses. Ça se répond d'une manière incroyablement massive et rapide.
Marine Turki, Mediapart.
Et ce qui était à noter, c'était que quand même les organisateurs eux-mêmes incitaient à la dénonciation de la présence de certains journalistes, notamment ceux de Canal+, qui avaient d'entrée un slogan au micro, je dis bien au micro de l'organisateur, qui était de dire « Les journalistes collabos, nous n'en voulons pas. Signalez-nous ces journalistes lorsqu'ils sont là. Moi, je n'avais pas de caméra, j'avais pas de carnet sorti. J'en étais à faire mon travail en ayant tout ça dans mon sac, pas sorti. Et puis, avec le téléphone, vous faites ce que vous pouvez. C'est quand même pas des conditions de travail normales. Et donc, la nouveauté, c'est ça. C'est on galvanise un peu les foules, on les surchauffe. D'ailleurs, ça a été dit au micro à Bastille. On ne décolle pas tant que vous n'êtes pas surchauffé parce que c'est un jour de colère. Donc, je pense que tout ça, il faut le dire. On n'était pas du tout dans la provocation, mais à un moment donné, on ne peut plus faire son travail. Vous ne pouvez plus interviewer les manifestants.
On peut pas vivre sous la terreur quand même. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, on m'a dit tu as tort, c'est dangereux d'écrire ça, c'est dangereux de parler d'eux. Eh bien non, il faut pas avoir peur.
C'est vrai que c'est important parce qu'en effet, ils sont très organisés. Et par exemple, là, vous citiez votre cas, mais nous, dans nos équipes, il y a un journaliste actuellement qui est en procédure judiciaire attaqué par Marine Le Pen parce que tout simplement, il avait relaté la phrase d'un dirigeant du Front de Gauche entre les relations entre Pénanc, le banquier ex-Gudard, et Jean-Marie Le Pen en marge de l'affaire Cahuzac. Vous voyez, ça va chercher assez loin. Ça veut dire que cette technique, cette manière d'impressionner les gens, de finalement d'amener à, comment dire, être beaucoup plus prudent dans son écriture, eh bien, c'est vrai également, enfin, c'est très vrai au Front National et dans tous ces mouvements plus ou moins organisés.
Marine Turki, Mediapart, Frédéric Aziza, LCP, Radio J, Henri Vernet, Le Parisien sont ce matin dans Le Secret des Sources. Dans un instant, place à la sémiologue Mariette Darigrand qui nous écoute, qui vous écoute attentivement depuis le début de l'émission. Je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses à nous dire sur le comportement des médias dans cette affaire. Auparavant, une chanson emblème de la lutte contre l'extrême droite, Noir Désir, un jour en France.
Les beaux discours, aux poteaux les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun devient le relais de la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. On se rappelle de la France, des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus.
Mariette Darigrand, on voit bien que ces mobilisations extrémistes posent un problème aux médias, qu'elles les déconcertent parfois, qu'elles les mettent un peu en porte-à-faux, que les journalistes sont loin de tous réagir de la même manière. Est-ce qu'on peut dresser, j'allais dire, une forme de typologie des attitudes, des comportements des journalistes et des médias ?
Oui. Enfin, on peut essayer en tout cas de le faire. Et je ressens le besoin de le faire, d'autant plus que là, en vous écoutant, j'ai ressenti aussi l'émotion que vous avez. C'est pas souvent, finalement. C'est plus que parler du travail, là, de votre métier. Je pense que c'est parler aussi de qu'est-ce qu'on fait dans ce monde où on redécouvre la valeur de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est l'idéologie, hein ? C'est du logos, du discours très fort. Et avec de l'idéologie, on s'oppose et parfois, c'est une forme de guerre. Bon, c'était pas au programme nécessairement des générations nées largement après la guerre. Mais nous y sommes, je trouve. Alors, que peut faire le journaliste qui justement ne connaît pas ça, la guerre ? Il faut qu'il se rappelle des quatre grandes fonctions qu'il a à remplir, mais au sens très très noble du terme. La première grande fonction, c'est celle de l'enquête. C'est que le journaliste est une sorte de reporter, détective au service de la démocratie. On voit à peu près que cette fonction, sur une certaine génération, comme la vôtre...
Et qu'elle est essentielle sur ces sujets-là.
Elle est essentielle, et là, il faut être extrêmement factuel. Les noms que vous avez prononcés, les mots, je suis impressionnée par le travail du détail. Hein. Vraiment, il faut le faire et l'amener. Ça, on voit. On voit que ça se reproduit bien. C'est déjà plus compliqué lorsqu'on passe au spectacle. Et qu'est-ce qu'on fait avec le storytelling ? C'est la deuxième fonction du journaliste. Il a aussi à raconter le monde dans lequel il vit et à montrer des images. Et il n'y a pas de censure dans la démocratie. On montre les choses. Mais la question, c'est les montrer sans les mots, bien souvent. C'est vraiment un problème, ça. Les images qui tournent en boucle et qui nous effraient, qui produisent des effets sur les récepteurs. Donc ça, c'est la deuxième grande fonction et la deuxième typologie. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus... dans la société du spectacle, comme l'avait dit Guy Debord, vous le rappeliez, faire comme s'il n'y avait pas aussi des mots précis à mettre sur les images. Ça, c'est la troisième fonction du journaliste, qui est la troisième typologie, c'est l'éditorialiste, celui qui pense. Il est plus proche de l'intellectuel que de l'écrivain voyageur qui va dans la société. Il doit penser. Aujourd'hui, il n'est pas aidé par le professionnel de la pensée qui est l'intellectuel ou le philosophe. On n'en a pas vu beaucoup hein, sur Jour de colère. J'ai pas vu de choses intéressantes venant des intellectuels. Donc le journaliste, il est un peu tout seul pour nous dire ce qu'il y a de bien, d'intéressant. Est-ce que c'est du néo-fascisme ? Est-ce que c'est juste du conservatisme un peu pas grave ? On ne sait pas aujourd'hui. Je ne sais pas quoi penser. Et un grand éditorialiste français ne m'a pas aidé là-dessus. Je ne vois pas qui. Et puis, quatrième fonction qui est demandée, qui est nouvelle. Et il n'y a pas ça normalement dans le journalisme. Là, il va falloir que vous fassiez un effort avec d'autres. Mais il faut décrypter le langage. Il faut se demander ce que ce slogan veut dire. Il faut travailler sur les mots. On ne peut pas comprendre la chose. Je suis d'accord avec vous qui étiez dans les manifs. Vous êtes au cœur de la manif. Il faut ramener les mots, les slogans et ne pas se laisser impressionner par ceux qui disent « c'est pas grave, c'est juste de l'exagération ». Non, des mots sont prononcés, des métaphores sont données. Les historiens doivent nous rappeler les tracés, hein, si ça revient des années 30, si ça vient de la lepénisation des essais. Si ça vient du néoconservatisme américain, il faut faire ce travail-là de fourmi qui n'était pas au programme non plus du journaliste. Vous voyez, il y a quatre au moins grandes typologies d'action.
Alors, il y a plein de choses là dans ce que vous venez de dire, Marie Darigrand. Je voudrais juste qu'on s'arrête peut-être sur le point du vocabulaire parce qu'il est important aussi. On l'a vu là sur l'autre sujet de la semaine, la théorie du genre. Oui. Le seul fait d'employer ce vocable théorie du genre, c'est déjà entrer dans la logique des groupes extrémistes qui disent le dénoncer. Et un certain nombre de médias l'ont fait. Pas tous, hein, pas vous, mais beaucoup l'ont fait, Marine Turquie.
De la même manière que le Front National a gagné une bataille sémantique, on en avait parlé ici même sur votre antenne, je pense qu'un certain nombre de ces collectifs, de ces manifestants, ont aussi gagné une bataille sémantique. Quand on entend les pro-vie, l'écologie humaine, la manif pour tous... résistance, des noms de collectifs comme ça, on voit qu'ils ont, et la théorie du genre évidemment, qui quand même n'existe pas, ça a été rappelé par un certain nombre de médias, mais ça a quand même beaucoup aussi été écrit parfois sans guillemets par plusieurs médias, donc on voit qu'il y a quand même une OPA de ces collectifs sur le langage qui n'est pas anodine, et je pense que le rôle de nous journalistes, c'est justement de remettre en question tous ces mots et de les contextualiser et puis de mettre le guillemet quand il faut. La théorie du genre, c'est la supposée théorie du genre pour ces pour ces
et puis d'expliquer. Il faut expliquer ce que c'est, d'où ça vient. Alors, la théorie du genre, ça n'existe pas en tant que concept. Hein. Il y a éventuellement,
il y a des études.
Et le livre de Judith Butler qui est derrière, qui l'a lu en France, qui l'a compris, qui l'a diffusé. Il a mis 15 ans à être traduit.
Mais ce qui est fou, c'est Frédéric Azizin et après Henri Vernet.
Oui, excusez-moi. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que tous ces débats qui ont lieu aujourd'hui, la théorie du genre, ça a été lancé par ces sites de l'ultra-droite. Donc, on débat d'un
agenda qui est fixé par eux.
Qui est fixé par eux et par l'idéologue de cette ultra-droite, la pire, qui se définit comme national-socialiste dans la France de 2014.
Qui est Alain Soral.
Alain Soral. Donc, on débat autour de thématiques et de thèmes qui sont lancés par un nazi.
Oui, mais quand vous dites qu'ils ont la maîtrise du dictionnaire, en quelque sorte, c'est assez vrai. Mais encore une fois, c'est là aussi qu'on retrouve une certaine habileté, parce que certains s'y laissent prendre. Alors, peut-être nous, médias, mais également le gouvernement. Attention, il faut voir les choses comme elles sont. Najat Vallaud-Belkacem, à un moment, a dit oui, on parle de théorie du genre, et la théorie du genre est utile. Elle l'a dit, c'était en juin dernier, chez l'un de nos confrères. Je crois qu'en l'occurrence, c'était Métro ou 20 minutes. Peu importe. Mais donc, je veux dire que parfois, les professionnels eux-mêmes tombent dans ce piège-là. Alors, nous, quelle est l'approche par rapport à ça? Puisqu'on parle d'un journal, etc. Bon, le Parisien, nous, c'est toujours d'avoir une approche pédagogique et donc d'être dans l'explication par rapport.
Il y a eu une très bonne page sur la théorie du genre, justement.
Voilà, enfin, exactement.
De quoi on parle, on va dire,
la théorie du genre, qu'est-ce que c'est? Ou les théories, comme vous le rappeliez, etc. Donc, ça, c'est bien décrit. Et puis surtout, on montre bien, dans la même page, dans la même enquête, qu'il ne s'agit pas de ça par rapport au travail que fait l'Éducation nationale, qui est de lutter contre l'inégalité entre les sexes, notamment dans le monde professionnel. Donc ça, c'est une chose. Après, en effet, c'est l'approche, en disant le plus possible qui ils sont, ce qu'ils représentent et d'où ils viennent, de ces groupes, de cette frange extrême qui est en train, en quelque sorte, de prendre la France en otage depuis plusieurs mois, depuis un an, avec des manifs à répétition, avec des agressions, comme on l'a vu, contre Madame Taubira, avec une espèce de libération de la parole la plus venimeuse, la plus haineuse et la plus insoutenable qui devient maintenant presque banale dans la rue. Et donc là, il faut faire ce travail et chercher. Et c'est pas toujours évident, parce que vous parliez des mots à l'instant, mais c'est vrai, mais dans ce groupe, dans le genre de colère, il y avait également un groupe qui s'appelait Camping pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aller chercher...
Mais la colère, par exemple...
Et c'est comme ça qu'on attrape les
nigauds. C'est aussi un attrape nigauds. Mais la colère, qui est un mot qui a circulé énormément de toute l'année 2013, a été repris, c'est un mot qui vient de la rue, qui est repris tel quel par les médias, qui le mettent en une, et qui le reprennent sans le critiquer, sans guillemets, sans explication. C'est un gros problème,
de
parce
moins
que nous sommes dans une société de marquage, de branding, et une fois que les journalistes ont accrédité ce mot, il peut être repris parce qu'il est positivé et il est noble.
Honnêtement, c'est pas le cas pour ce genre de colère. Enfin, j'espère que non, mais
il y a autre chose qu'a brièvement évoqué tout à l'heure Frédéric Aziza et qui renvoie à la fonction d'éditorialisation, enfin de quête de sens hein, du journaliste. On a entendu cette semaine, on pourrait en écouter quelques-uns, mais on a plus trop le temps. On a entendu des sujets sur le boycott de l'école qui étaient des sujets se présentant comme, on va dire, équilibrés. C'est-à-dire 30 secondes pour les uns et 30 secondes pour les autres. Mais est-ce qu'on peut être... Enfin, ça n'a aucun sens, quelque part, cette présentation des choses.
Ça n'a aucun sens.
On a eu 30 secondes entendant, voilà, il faut boycotter l'école parce qu'il y a un problème. Et puis en face, il y avait 30 secondes du ministre qui disait, c'est pas ça.
Une minute pour Hitler, une minute pour les Juifs. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, Henri Vernet, l'ultra-droite est en train de prendre en otage le débat. Ils ont pris en otage la manif pour tous et j'ai bien peur qu'ils prennent en otage aujourd'hui les élections à venir, les municipales et les européennes. Il faut se souvenir qu'en 2009, Dieudonné a été à la tête d'une liste aux européennes, la liste antisioniste. Et je me demande si aujourd'hui, leur objectif, ce n'est pas de jouer un rôle dans le cadre des élections européennes.
Henri Vernet, mais après j'aimerais bien entendre votre point de vue sur cette question de du positionnement du journaliste consistant aussi à dire attendez, tout ne se vaut pas.
Ouais. Mais attention, parce que là on en revient sur la question que vous posiez précédemment, la condescendance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut s'intéresser à eux, c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'ils pensent et il ne s'agit pas de dire ok, toute chose égale par ailleurs, tout se vaut, etc. On n'est pas dans le relativisme. Mais quand même, il faut savoir ce boycott de l'école, d'où ça vient. D'ailleurs, c'est très ciblé quand même, les messages de Farida Bolgoura s'adressent à une population bien précise. Mais c'est quand même intéressant d'avoir leur point de vue. Il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi ils ont peur, quelles sont les craintes. Il ne faut pas tomber dans cette condescendance que vous avez dénoncée avec raison à un moment dans une
question. Encore une fois, ce qui me gêne plutôt, c'est la manière dont on en parle. Oui, on peut parler de ce qui s'est passé cette semaine. Simplement, on peut aussi dire que ça concerne quelques centaines d'écoles sur 48 000. On peut aussi dire qu'il y a une rumeur à la base. Le Monde a fait le très bon premier papier là-dessus, démontant toutes les contre-vérités de cette rumeur et la manière dont elle a été véhiculée. Il faut dire tout ça avant d'en en faire un sujet à la une. Donc moi, ce qui me gêne plutôt, c'est la manière dont on a parlé, avec effectivement parfois pas de guillemets, et ça, c'est très gênant.
Marie Darigrange, je voyais que vous souhaitiez réagir, c'était au propos de Frédéric Aziza, non, c'est ça, sur les élections, non, c'est pas ça?
Oui, non, mais c'est par rapport au balancement. C'est bien de faire un balancement dans une démocratie, mais c'est encore mieux de penser la situation. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il y a des gens dans ce pays qui pensent certaines situations, qui signent des articles avec le JE, le jeu? Moi, j'appelle ça aujourd'hui le hors-jeu. Il y a des journalistes qui se mettent
C'est le rôle des intellectuels, plus que des journalistes.
Mais est-ce que l'éditorialiste, est-ce que le journaliste n'est pas un intellectuel? Pas tous les journalistes et pas tout le temps. Mais
je crois
qu'il faut que le journaliste se rappelle qu'il est un intellectuel.
Et qu'il ne soit pas complaisant.
Manque de chance. C'était plus facile quand Serge Julie avait Sartre, quand Jean-Daniel a Camus. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Qui va aider? C'est vrai. Mais il faut faire l'effort à ce moment-là de penser par soi-même et de penser avec peut-être d'autres à prendre ailleurs qu'en France.
Il faut surtout que le journaliste garde ses mots. Mais ça, oui. C'est important.
Voilà.
C'est ça, la première dérive dans cette histoire, comme dans d'autres histoires qui ont ponctué cette année de manifestation. Il faut garder ces termes et ne pas laisser un tel ou un tel...
C'est la question
imposer
de la pensée.
L'agenda et les mots.
Et donc de ne pas se bercer d'une revendication de neutralité un peu illusoire quand même. C'est ça aussi que ça veut dire.
Mais non, mais la neutralité peut être engagée. Encore une fois, il faut donner vraiment à connaître. Il faut s'engager. En effet, toutes les choses ne se valent pas. Mais pour autant, je pense que le rôle que vous venez de décrire est quand même aussi celui des intellectuels. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est plus le silence des intellectuels et des politiques, le désarroi par rapport à ce mouvement.
Vous êtes d'accord avec moi. Et d'ailleurs, maintenant, Le Parisien a un édito qui n'a jamais eu dans son histoire.
C'est nouveau, en effet. C'est assez nouveau. Oui, neutre, mais engagé.
Le secret des sources, c'est presque fini pour aujourd'hui. Et c'est bien sûr le clin d'œil qui a le dernier mot. Alors, on va finir après ces sujets assez lourds et pesants par un sourire. Nathalie Lopez a imaginé un jour de colère un peu différent, un peu kitsch, vraiment hétéroclite. Ça pourrait donner ça.
Hé les gars, il y en a marre.
Ouais, il y en a marre.
Mais il y en a marre de quoi?
Il y en a marre des frigos qui font du bruit la nuit.
Ouais, il y en a marre.
C'est vrai, il y en a marre.
Il y en a marre des scooters qui font du bruit.
Ouais, il y en a marre.
Il y en a trop marre.
Il y en a marre des pains au chocolat carré.
Et des canards jaunes.
Et des triangles triangulaires.
Comment?
Bah ouais, moi je veux qu'ils soient carrés les triangles.
Il y en a marre de la pluie quand il pleut.
Et moi j'en ai marre d'avoir de la soupe au chocolat quand j'appuie sur le bouton soupe au chocolat.
Et moi j'en ai marre que l'alphabet commence par A, je veux qu'il commence par M.
Il faut qu'on se révolte.
Ouais.
Et on fait comment?
Bah il faut qu'on s'organise.
Ouais.
Et on fait quoi?
Ben, on va manger.
Ouais, il y en a marre d'avoir faim.
Et on peut dire qu'il y en a marre d'en avoir marre.
Excellent petit déjeuner à tous si vous êtes en train de prendre le petit-déj. Marine Turki, Frédéric Aziza, Henri Vernet, Éric Chavroux, Mariette Darigrand étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Un grand merci à tous. Frédéric Aziza vole au-dessus d'un nid de facho. C'est paru chez Fayard. Lecture recommandée. Et puis une fois n'est pas coutume, on va faire un peu d'autopromotion pour nos chroniqueurs quand même. Mariette Darigrand aussi qui vient donc de signer autre lecture recommandée. Comment les médias nous parlent mal chez François Bourin. Les journalistes face aux mobilisations extrémistes. Les commentaires sont libres comme toujours. Toujours sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et n'oubliez pas, si vous avez raté le direct, ça peut arriver le samedi matin. Le Secret des Tours, c'est en podcast. Une bonne affaire, là aussi, sur franceculture.fr. Dans quelques minutes, après le journal d'Anne Lorchouin sur France Culture, réplique. Ce matin, peut-on encore aimer l'Europe? Alain Finkielkraut reçoit Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement. Prenez soin de vous.
Dimanche, par exemple, c'était toute la foule qui scandait dans tous les cortèges, journalistes collabos et j'en passe. Les confrères de Canal+ se sont fait agresser à de nombreuses reprises.
On va y revenir.
Et
ouais.
C'est déjà arrivé l'année dernière. Donc il y a un vrai rejet des élites et aussi des journalistes.
Il y a le problème des chaînes d'info. Souvent, sur les chaînes d'info, il y a une minute pour les racistes, une minute pour les antiracistes. Ici, à France Culture, à Radio France, France Info, sur un certain nombre de médias, au Parisien, on contextualise l'information, ce qui n'est pas le cas sur les chaînes d'info. Et ça, c'est ça aussi le problème.
Ce qui est terrible, ce qui est impressionnant, ce qui est totalement nouveau, c'est la vitesse et la massification de la diffusion de l'horreur, de la bêtise, de l'extrême droite, des idées, disons, les plus pernicieuses, les plus dangereuses. Ça se répand d'une manière incroyablement massive et rapide.